Chapitre 6. Oh, elle me renseigna, aussitôt qu'elle émergea à mes yeux au coin de la maison. Qu'est-il arrivé au nom du ciel? Elle était toute rouge et hors d'haleine. Je ne dis rien avant qu'elle ne fût tout près. Arrivée à moi, sans doute j'avais une figure extraordinaire. Cela se voit-il? Vous êtes pâle comme un linge, effrayant à voir. Je réfléchis. Je pouvais sans scrupule, avec un tel prétexte, affronter l'innocence la plus intacte. Mrs. Gross, dans toute la fleur de la sienne, ne pouvait plus compter sur mon désir de la respecter. Ce sentiment avait glissé comme un manteau de mes épaules, sans qu'un froissement de ses plis donnât l'éveil. Et si j'hésitais un instant, ce ne fut pas avec l'idée de cacher ce que je savais. Je lui tendis la main. Elle la prit. Je m'y cramponnai, me plaisant à la sentir près de moi. Ce fut une espèce de soutien pour moi que le soupir timide exhalé par sa surprise. Vous venez me prendre pour aller à l'église, mais je ne puis y aller. Est-il arrivé quelque chose? Oui, il faut maintenant que vous le sachiez. Avais-je l'air très bizarre? Derrière la vitre? Oh, vous étiez effrayante. Voilà, dis-je, c'est que j'ai été effrayé. Les yeux de Mrs. Gross exprimèrent clairement qu'elle n'avait aucune envie de l'être à son tour, mais que néanmoins elle savait trop bien les obligations de son service pour se dérober au partage avec moi de quelque ennui que ce fût. Oh oui, c'était bien mon intention qu'elle le partageât. C'est à cela qu'est due mon émotion, mon bouleversement. Ce que vous avez vu, enfin, tout à l'heure, en me regardant de la salle à manger. Mais ce que j'ai vu, moi, immédiatement avant, était bien pis. Sa main me serra plus fort. Qu'est-ce que c'était? Un homme extraordinaire qui regardait. Quel homme extraordinaire? Je n'en ai pas la moindre idée. Mrs. Gross jeta vainement les yeux autour d'elle. Alors, où est-il allé? Je le sais encore moins. L'avez-vous vu déjà? Oui, une fois, sur la vieille tour. Elle me regarda encore plus fixement. Vous voulez dire que c'est un inconnu? Oh, absolument. Et cependant, vous ne m'en avez rien dit. Non, pour des raisons, mais maintenant que vous avez deviné. Les yeux ronds de Mrs. Gross supportèrent sans ciller cette affirmation. Ah, je n'ai pas deviné, dit-elle très simplement. Comment le pourrais-je, si vous-même n'imaginez pas? Non, je ne puis rien imaginer du tout. Et vous ne l'avez jamais vu ailleurs que sur la tour? Et tout à l'heure, là où nous sommes? Mrs. Gross regarda de nouveau autour d'elle. Que faisait-il sur la tour? Rien que s'y tenir et me regarder en bas. Elle réfléchit un instant. Est-ce un gentleman? Je n'eus pas besoin de réfléchir, ce me semble. Oh non! Elle me considérait avec une stupeur croissante. Alors ce n'est pas non plus personne à la maison, personne du village. Personne, personne. Je ne vous en ai pas parlé, mais je m'en suis assuré. Elle respira, vaguement soulagée. Chose singulière, cela valait donc mieux? Guère mieux, pourtant. S'il n'est pas un gentleman, ce qu'il est, une abomination. Une abomination? Il est... Dieu me pardonne si je sais ce qu'il est. Et une fois de plus, Mrs. Gross regarda autour d'elle. Elle fixa les yeux sur les lointains qui s'obscurcissaient, puis, revenant à elle, se tourna vers moi avec une totale inconséquence. « Il est temps d'aller à l'église. »« Oh, je suis incapable d'aller à l'église. »« Cela ne vous fera-t-il pas du bien ?»« Cela ne leur en fera pas. » Et d'un signe de tête, j'indiquai la maison. « Aux enfants ?»« Je ne puis les quitter maintenant. »« Vous avez peur ?» Je répondis hardiment. « J'ai peur de lui. » Sur le large visage de Mrs. Gross apparut pour la première fois la lointaine et faible lueur d'une intelligence qui s'éveillait. Il en surgit pour moi-même comme l'aube retardée d'une idée qui ne lui venait pas de moi et qui d'ailleurs me demeurait encore tout obscure. Je me rappelle avoir pensé immédiatement qu'il y avait là quelque chose dont je pourrais tirer parti et que c'était lié à ce désir qu'elle montra aussitôt d'en savoir davantage. Quand cela se passa-t-il sur la tour? Vers le milieu de ce mois, à la même heure. Presque à la nuit? Oh non, loin de là, je le voyais comme je vous vois. Alors, comment a-t-il pu s'introduire? Et comment a-t-il pu s'en aller? Je me mis à rire. Je n'ai pas eu l'occasion de le lui demander. Ce soir, vous voyez, il n'a pas su s'introduire. Il ne fait que regarder. J'espère qu'il en restera là. Elle avait lâché la main, elle se détourna un peu. J'attendis un instant, puis je déclarai « Allez à l'église, adieu, moi je dois veiller. » Elle se tourna lentement vers moi. « Craignez-vous quelque chose pour eux ?» De nouveau, nous échangeâmes un long regard. « Pas vous ?» Au lieu de me répondre, elle s'approcha de la fenêtre et appliqua son visage contre la vitre. « Voilà comme il pouvait voir, » continuai-je. Elle ne bougea pas, mais « Combien de temps est-il resté ?» me demanda-t-elle. « Jusqu'à ce que j'arrive ici. J'étais sorti pour aller le trouver. » Mrs. Gross se retourna enfin. Son visage était de plus en plus expressif. Je n'aurais pas pu sortir. Moi non plus, et je me mis à rire, si je n'avais pas eu mon devoir à remplir. J'ai aussi le mien, répliqua-t-elle, puis elle ajouta, à quoi ressemble-t-il? Je meurs d'envie de vous le dire, mais comment faire? Il ne ressemble à personne.
À personne, répéta-t-elle.
Il ne porte pas de chapeau. Et voyant à sa figure que déjà associée, elle reconnaissait avec une émotion croissante un signe caractéristique, j'ajoutai rapidement au portrait, touche après touche. Il a les cheveux roux, frisés, serrés, et un visage pâle, d'une coupe allongée, avec des traits réguliers et droits, et de petits favoris assez bizarres, roux comme ses cheveux. Les sourcils sont un peu plus foncés. Ils sont particulièrement arqués et paraissent très mobiles. Les yeux sont pénétrants. Étrange, horriblement étrange. Et tout ce que je puis affirmer, c'est qu'ils sont plutôt petits et très fixes. Sa bouche est grande et ses lèvres minces. Et à l'exception de petits favoris, il est entièrement rasé. Il me donne un peu l'impression de ressembler à un acteur.
À un acteur?
Il était, en tout cas, impossible de moins ressembler à l'un d'eux que Mrs. Gross à ce moment. Je n'en ai jamais vu, mais je suppose qu'ils sont comme ça. Il est grand, souple, droit, continuai-je. Mais un gentleman? Oh, cela jamais. La figure de ma compagne, tandis que je parlais, était devenue toute blanche. Ses yeux ronds battirent, et sa bouche s'ouvrit toute grande. Un gentleman? Balbutiait-elle. Confondue, stupéfaite, lui, un gentleman? Vous le connaissez donc? Elle essaya visiblement de se maîtriser. Tout de même, il est beau. Je compris qu'il fallait l'encourager. Remarquablement. Et habillé? Avec les vêtements d'un autre. Ils sont élégants, mais ce ne sont pas les siens. Dans un souffle, elle laissa échapper un gémissement affirmatif. Ce sont ceux de notre maître. Je saisis la balle au bond. Vous le connaissez donc? Elle défaillit une seconde seulement. Quint, s'écria-t-elle. Quint? Peter Quint, son propre domestique, son valet de chambre, quand il était ici. Quand notre maître était ici? Encore hors d'elle-même, mais désireuse de m'éclairer, elle accumulait les détails. Il ne portait jamais de chapeau, mais il portait, enfin plusieurs gilets ont disparu. Ils étaient ici tous deux l'année dernière. Puis notre maître s'en alla, et Quint resta seul. Je suivais un peu haletante. Seul? Seul avec nous. Et comme d'une région plus profonde, elle tira ces mots. Pour le service. Et qu'advint-il de lui? Elle retarda si longtemps sa réponse que je me sentis de plus en plus gagné par le sentiment du mystère. Il partit aussi, finit-elle par me dire. Pour aller où? À ces mots, son expression devint tout à fait extraordinaire. Dieu sait où. Il est mort. Il est mort! Je poussai presque un hurlement. Elle sembla, pour ainsi dire, se carrer dans sa résolution. Se planter fermement sur ses pieds pour mieux exprimer l'étrangeté du fait. Oui, Mr. Quint est mort. Chapitre 7. Bien entendu, il nous fallut plus d'un entretien comme celui-ci pour nous pénétrer de ce avec quoi il nous fallait vivre de notre mieux désormais. Ma terrible réceptivité des visions du genre dont il a été donné de si saisissants exemples et la connaissance maintenant acquise par ma compagne, connaissance faite à la fois de consternation et de pitié de cette réceptivité. Ce soir-là, après la révélation qui m'avait laissé prostré pendant près d'une heure, il n'y avait eu qu'un petit office de larmes, de vœux, de prières et de promesses, apogée d'une série de serments et d'engagements mutuels, directement issu de notre retraite à la salle d'études, où nous nous étions enfermés pour nous expliquer à fond. Le résultat de cette explication fut simplement de réduire la situation à l'extrême rigueur de ces éléments. Elle, pour son propre compte, n'avait rien vu, pas l'ombre d'une ombre. En dehors de l'institutrice, personne dans la maison n'avait à subir l'épreuve. Cependant, sans paraître douter de ma raison, elle accepta la vérité telle que je la lui affirmais, et finalement elle me témoigna en cette circonstance une tendresse mêlée de crainte, une déférence envers mon douloureux privilège, dont le souffle léger demeure en ma mémoire comme la caresse de la plus exquise des charités humaines. Il fut donc ce soir-là définitivement admis entre nous que nous pensions pouvoir supporter ensemble ce que l'avenir nous réservait. Et je n'étais pas convaincu que sa part fût la meilleure, en dépit de son exemption du don fatal. Quant à moi, je crois bien que je savais alors, autant que je le sus plus tard, ce que j'étais de force à affronter pour la protection de mes élèves. Mais il me fallut quelque temps pour être tout à fait sûr que mon honnête campagne réalisait pleinement ce que pouvait exiger d'elle un engagement si formidable. J'étais pour elle une étrange société, aussi étrange que celle que je recevais moi-même. Mais, revenant sur ces heures passées, je vois que nous trouvions grand réconfort à nous rejoindre sur un terrain commun, dans la seule idée qui, par une chance unique, pouvait nous apporter le calme. Cette idée, ce second mouvement, me tirèrent pour ainsi dire hors de la chambre secrète de mon inquiétude. Je pouvais toujours aller prendre l'air dans la cour, et Mrs. Gross pouvait toujours m'y rejoindre. Je me rappelle parfaitement comment un peu de force me revint avant que nous nous séparassions pour la nuit. Nous nous étions dit et redit chaque trait de l'aventure. Il cherchait quelqu'un, dites-vous, quelqu'un qui n'était pas vous. Il cherchait le petit Miles. Une lumière prodigieuse m'inondait. Voilà ce qu'il cherchait. Mais comment le savez-vous? Je le sais, je le sais, je le sais. Mon exaltation croissait. Et vous le savez aussi, ma chère. Elle ne le nia point, mais je sentais que je n'avais même pas besoin de cette assurance. Un moment après, elle reprit. Et s'il le voyait? Le petit Miles? C'est ce qu'il désire? De nouveau, elle parut profondément bouleversée. L'enfant? Dieu nous en garde, non. L'homme, il veut leur apparaître. Qu'il pût y arriver était une conception effroyable, et cependant, en une certaine façon, je pouvais l'annihiler. Ce que d'ailleurs, tandis que nous nous attardions là, je réussissais à prouver pratiquement. J'avais la certitude absolue que je reverrais encore ce que j'avais déjà vu. Mais quelque chose en moi me disait qu'en m'offrant bravement comme seul sujet à cette expérience, en acceptant, en provoquant, en surmontant tout ce qui pouvait arriver, je servirais de victime expiatoire et préserverais la tranquillité de tous les autres membres du foyer. Pour les enfants en particulier, je parerais les coups et les sauverais complètement. Je me rappelle une de ces dernières choses que je dis à Mrs. Gross ce soir-là. Je suis frappé de ce fait que mes élèves ne parlent jamais, elle me regarda fixement tandis que je m'arrêtais, pensive. De lui, et du temps qu'il a passé ici avec eux? Ni du temps qu'il a passé avec eux, ni de son nom, de sa présence, de son histoire, en aucune façon. Ils n'y font jamais allusion. Oh, la petite demoiselle ne peut pas se rappeler. Elle n'a jamais rien vu, ni rien su. Des circonstances de sa mort? Je réfléchis avec une certaine intensité. Peut-être pas, mais Miles devrait s'en souvenir. Il devrait savoir. Ah, ne l'interrogez pas, laissa échapper Mrs. Gross. Je lui rendis le regard qu'elle m'avait lancé. N'ayez pas peur, je continuais à réfléchir, c'est plutôt curieux. Qu'il n'ait jamais fait la moindre allusion? Vous me dites qu'ils étaient grands amis? Oh, pas lui, déclara Mrs. Gross avec intention. C'était le genre de Quint, de jouer avec lui, je veux dire de le gâter. Elle se tut un instant, puis ajouta, Quint prenait trop de liberté. À ces mots, évoquant subitement une vision de son visage, de quel visage, j'éprouvais une nausée de dégoût. Des libertés avec un garçon? des libertés, avec tout le monde. Pour le moment, je renonçais à analyser cette déclaration, et je me fis simplement la réflexion qu'elle pouvait s'appliquer à plusieurs membres de la maisonnée, à la demi-douzaine de servantes et de valets qui appartenaient encore à notre petite colonie. Mais il y avait pourtant un motif de crainte dans ce fait, en lui-même heureux, qu'aucune histoire gênante, aucune perturbation ancillaire, n'avait de mémoire d'homme existé dans la bonne vieille demeure. Elle n'avait ni mauvais renom, ni réputation scandaleuse, et Mrs. Krause, bien évidemment, ne désirait que se cramponner à moi et frissonner en silence. Je la mis cependant à l'épreuve au dernier moment de la journée. Il était minuit, elle avait la main sur le bouton de la porte, dans la salle d'études, pour prendre congé. Ainsi, vous m'assurez, c'est d'une très grande importance, que sa conduite était indiscutablement mauvaise, et que c'était une chose admise. Oh, ce n'était pas une chose admise. Moi, je savais, mais pas notre maître. Et vous ne l'en avez jamais informé? Oh bien, il n'aimait pas les rapporteurs, détestait les plaintes. Il coupait court à toutes les affaires de ce genre. Et si on remplissait son devoir envers lui? Il ne voulait pas être ennuyé avec le reste. Ceci cadrait assez bien avec l'impression qu'il m'avait donnée. Ce n'était pas un monsieur à rechercher les tracas, et il n'était pas toujours très difficile en ce qui concernait quelques personnes de son entourage. Tout de même, j'insistais auprès de mon informatrice. « Je vous réponds que je lui en aurais parlé, moi. » Elle sentit la justesse de cet avis. J'ai eu tort, je ne dis pas, mais la vérité, c'est que j'avais peur. Peur de quoi? Des choses que pouvait faire cet homme. Il était si habile, Quint, si ténébreux. Ces mots me frappèrent plus que, j'imagine, je ne laissais paraître. Vous n'aviez pas peur d'autre chose? Pas de son action? De son action? Répéta-t-elle avec anxiété, et l'air d'attendre autre chose, tandis que je balbutiais. De son action sur d'innocentes créatures, sur de précieuses petites existences. Elle vous était confiée. Non, elle ne l'était pas, répliqua-t-elle franchement et douloureusement. Notre maître avait foi en lui, et l'avait installé ici, parce qu'on le croyait d'une mauvaise santé, et que la campagne lui serait salutaire. Et ainsi, il disait son mot sur tout. Oui, elle l'avouait, même en ce qui les concernait. Eux, cette créature? J'étouffais un cri d'horreur. Et vous pouviez supporter cela? Non, je ne le pouvais pas. Et même maintenant, je ne le puis pas. Et la pauvre femme fondit en larmes. À partir du lendemain, ainsi que je l'ai dit, une surveillance rigoureuse les suivit partout. Néanmoins, combien de fois pendant cette semaine ne revînmes-nous pas passionnément sur ce sujet? Bien que nous l'eussions discuté à perte de vue, ce dimanche soir, je fus encore hanté, surtout aux premières heures de la nuit, car l'on peut imaginer si je dormis, hanté du soupçon qu'elle ne m'avait pas tout dit. Pour ma part, je n'avais rien dissimulé, mais Mrs. Krause me cachait quelque chose. D'ailleurs, vers le matin, je me persuadai que ce n'était pas manque de franchise, mais parce que les périls nous environnaient. Oui, passant et repassant au crible toutes ces choses, il me semble que lorsque le soleil fut haut dans le ciel, j'avais, dans mon trouble et mon agitation, tiré des faits presque tout le sens que, plus tard, de plus cruelles circonstances devaient mettre en lumière. Ce que j'y voyais avant tout, c'était la sinistre figure de l'homme alors vivant. Le mort pouvait attendre, et des mois qu'il avait passés à Bligh. Additionné, il représentait un formidable total. Cette triste période ne s'est éclose qu'à l'aube d'un jour d'hiver, lorsque, sur la route partant du village, Peter Quint, froid comme la pierre, fut trouvé par un laboureur qui se rendait au travail. La catastrophe fut expliquée, superficiellement du moins, par une blessure visible à la tête, blessure qui pouvait être produite, et qui, d'après les témoignages, l'avait réellement été, par un fatal faux pas qu'une complète erreur sur le chemin à suivre lui avait fait faire la nuit, en quittant le cabaret, sur la pente raide, couverte de glace, au pied de laquelle il avait été trouvé gisant. La pente glacée, l'erreur de route commise après boire, expliquait bien des choses. Pratiquement, elles expliquèrent tout, en fin de compte, après l'enquête et d'interminables bavardages. mais dans sa vie il y avait eu un tas de choses. D'étranges périls courus en d'étranges circonstances, de secrets désordres, des vices plus que soupçonnés, qui auraient expliqué infiniment plus. Je sais à peine comment tirer de mon histoire un récit capable de faire comprendre mon état d'esprit. Durant cette période, je trouvais littéralement de la joie à m'abandonner à l'envolée héroïque que l'occasion exigeait de moi. Je voyais maintenant qu'un service difficile et admirable m'avait été demandé, qu'il y aurait quelque grandeur à montrer, à qui de droit bien entendu, que je réussirais là où maint autre aurait échoué. Ce me fut un immense secours, j'avoue que je m'en applaudis quand je porte mes regards en arrière, d'avoir envisagé si fortement et si simplement ma responsabilité. J'étais là pour protéger et pour défendre les petites créatures les plus abandonnées et les plus touchantes du monde, dont la faiblesse appelait à l'aide d'une façon trop explicite à mes yeux, et demeurait une profonde et constante souffrance pour l'affection que je leur avais vouée. Ensemble, nous étions isolés du monde. Nous étions unis dans le même danger. Ils n'avaient que moi. Et moi, eh bien moi, je les avais. En un mot, c'était une occasion magnifique. Cette occasion se présentait à moi sous une image essentiellement concrète. J'étais un écran, il me fallait me tenir devant eux. Ils verraient d'autant moins de choses que j'en verrais davantage. Je me mis à les observer, dans une attente étranglée, pour ainsi dire, une tension dissimulée qui aurait bien pu, à la longue, me conduire à la folie. Ce qui me sauva, je le vois maintenant, ce fut le tour différent que prirent les choses. L'attente ne dura pas. Elle fut remplacée par des preuves épouvantables. Des preuves, oui, je dis des preuves, qui m'apparurent telles à partir du moment où je réalisais pleinement la situation. Ce moment data d'une certaine heure d'après-midi que je passais dans les parterres avec seulement ma plus jeune élève. Nous avions laissé Miles à la maison, sur le coussin rouge d'une profonde embrasure de fenêtre. Il avait désiré finir son livre, et j'avais été fort heureuse d'encourager une disposition si louable chez un jeune homme dont le seul défaut était une certaine mobilité irrépressible. Sa sœur, au contraire, s'était montrée ravie de sortir, et je me promenais avec elle une demi-heure, recherchant l'ombre, car le soleil était encore haut, et la journée exceptionnellement chaude. Je remarquai une fois de plus, tandis que nous allions, combien, comme son frère, et c'était un don charmant de ses deux enfants, elle savait me laisser à moi-même sans paraître m'abandonner, et m'accompagner sans me gêner le moins du monde. Jamais importun, il n'était cependant jamais désœuvré. Toute ma surveillance se bornait à les voir s'amuser énormément sans mon secours. Il semblait qu'ils préparassent avec passion un spectacle, et j'y avais un emploi d'ardent admirateur. Je vivais dans un monde de leur invention. Ils n'avaient jamais besoin de recourir à la mienne. Je n'étais requise que pour représenter quelqu'un ou quelque chose de remarquable dans le jeu du moment, et grâce à ma situation supérieure et respectée, ce n'était jamais qu'une sinécure fort douce et extrêmement distinguée. J'ai oublié ce que j'étais ce jour-là. Je me rappelle seulement que c'était un personnage très important et très paisible, et que Flora jouait intensément. Nous étions au bord du lac, et comme nous avions récemment commencé l'étude de la géographie, le lac était la mer d'Azov. Tout à coup, au milieu de ces éléments divers, surgit en moi la conscience qu'un spectateur intéressé nous observait de l'autre côté de la mer d'Azov. La façon dont cette conception s'enracina en moi fut bien la chose la plus étrange du monde. La plus étrange, à l'exception toutefois, de celle, beaucoup plus étrange encore, en laquelle elle se mua bientôt. J'étais assise, un ouvrage quelconque dans les mains, car j'étais je ne sais plus quoi qui pouvait logiquement s'asseoir. J'étais assise sur le vieux banc de pierre d'où l'on contemplait le lac, et ainsi posée, je commençais à percevoir avec certitude, cependant sans vision directe, la présence assez lointaine d'une troisième personne. Les vieux arbres, l'épais taillis, donnaient une ombre profonde et délicieuse, mais tout baignait dans l'éclat de l'heure, chaude et tranquille. Rien d'ambigu en quoi que ce fût. dans tous les cas, rien dans la conviction qui se forma en moi instantanément sur ce que je verrais au-delà du lac si je levais les yeux. Ils étaient rivés à la couture qui m'occupait, et je sens encore le spasme de mon effort pour les y maintenir jusqu'à ce que je me sentisse suffisamment calmé pour décider de ce que j'allais faire. Il y avait là un objet étranger, une figure dont je contestais le droit à être là, immédiatement et passionnément. Je me rappelle comment je m'énumérais tous les cas possibles, remarquant en moi-même que, par exemple, rien n'était plus naturel que la présence en cet endroit d'un des hommes attachés à la propriété, ou même d'un messager, d'un facteur, du garçon, d'un fournisseur du village. Mais cette remarque fit aussi peu d'impression sur ma conviction présente, j'en étais certaine sans avoir encore levé les yeux, que sur le caractère et l'attitude de notre visiteur. Rien n'était plus naturel que ces choses fussent justement ce qu'elles n'étaient absolument pas. Pour que je m'assurasse de l'identité positive de l'apparition, il aurait fallu que l'heure de l'action eût sonné à la pauvre horloge de mon courage. En attendant, avec un effort qui me coûta déjà beaucoup, je transférai mon regard sur la petite Flora, qui, à ce moment, jouait à 10 mètres de moi. Un instant, mon cœur cessa de battre, de terreur et d'anxiété, tandis que je me demandais si elle aussi voyait quelque chose. Et je retenais mon souffle, attendant ce qu'un cri, ce qu'un signe naïf et subit, soit de surprise, soit d'alarme, allait me révéler. J'attendis, mais rien ne vint. Puis, et il y a là, je le sens, quelque chose de plus sinistre que dans tout le reste, je fus envahi tout d'abord par le sentiment que depuis une minute, elle était tombée dans un silence absolu. J'observai ensuite que depuis une minute également, elle avait dans son jeu tourné le dos à l'étang. Quand je me décidai enfin à lever les yeux sur elle, avec la conviction assurée que nous étions toujours, toutes deux, soumises à une observation directe et personnelle, voici quelle était exactement sa posture. Elle avait ramassé un petit bout de bois plat, percé d'un petit trou, qui lui avait évidemment suggéré l'idée d'y enfoncer un autre fragment simulant un mât, et pouvant ainsi lui servir de bateau. Ce second morceau, tandis que je l'observais, elle essayait, avec un soin et une attention incroyables, de le faire tenir en place. Quand j'eus vraiment compris ce qu'elle faisait, je me sentis soulevé au point que, quelques secondes plus tard, je savais que je pouvais maintenant aller plus avant. Alors, une fois de plus, mes yeux changèrent de direction. J'affrontais ce qu'il me fallait affronter. Chapitre 8. Aussitôt que je le pus, je sautai sur Mrs. Grouse, et je ne pus rendre compte d'une manière intelligible de l'angoisse qui me déchira dans l'intervalle. Cependant, je m'entends encore lui crier, en me jetant pour ainsi dire dans ses bras, « Ils savent, c'est monstrueux, ils savent, ils savent. » Et que savent-ils, pour l'amour de Dieu? Tandis qu'elle m'étreignait, je la sentais incrédule. Mais tout ce que nous savons, et Dieu sait quoi de plus. Puis son étreinte se relâcha, et je commençai mon explication. Peut-être seulement alors m'expliquai-je les choses à moi-même avec une complète cohérence. Il y a 2 heures au jardin, à peine pouvais-je articuler, Flora a vu. Mrs. Grouse reçut ceci comme elle aurait reçu un coup en pleine poitrine. Elle vous l'a dit, murmura-t-elle, suffoquée. Pas un mot. C'est cela qui en fait l'horreur. Elle a gardé cela pour elle. Un enfant de 8 ans. Cet enfant. Ma stupeur ne pouvait s'exprimer. Naturellement, l'ébahissement de Mrs. Grouse ne faisait que grandir. Alors, comment savez-vous? J'étais là. J'ai vu de mes yeux. J'ai vu qu'elle se rendait parfaitement compte. Vous voulez dire de sa présence à lui? Non, de sa présence à elle. Je savais bien que mon expression, en parlant, révélait de prodigieux sous-entendus, car je les voyais se réfléchir lentement sur le visage de ma compagne. C'était une autre personne cette fois-ci, mais encore une figure aussi immanquablement vouée au mal et à l'horreur. Une femme en noir, pâle et effrayante, et avec une telle expression, un tel visage, de l'autre côté du lac. J'étais là, avec la petite, bien tranquille pour le moment, et puis elle arriva.
Elle arriva ? Comment et d'où cela ?
De là où ils viennent. Elle apparut tout simplement et se tint debout, mais pas tout près.
Et sans s'approcher ?
Oh, pour la sensation et l'effet produit, c'était comme si elle eût été aussi près que vous l'êtes.
Mon ami, cédant à une impulsion singulière, recula d'un pas.
Est-ce quelqu'un que vous n'avez jamais vu ?
Non, jamais. Mais la petite, elle, la connaît.
Vous aussi.
Et pour lui prouver que j'avais réfléchi et abouti à une conclusion, c'est ma devancière, celle qui est morte.
Miss Jessel ?
Miss Jessel.
Vous ne me croyez pas, insistai-je ?
Dans sa détresse, elle se tournait de droite et de gauche.
Comment pouvez-vous en être sûr ?
Dans l'état où étaient mes nerfs, cette question provoqua chez moi un accès d'impatience.
Eh bien, demandez à Flora. Elle en est sûre, elle.
Mais je n'avais pas plus tôt prononcé ces mots que je me repris vivement.
Non, pour l'amour de Dieu, n'en faites rien. Elle vous dirait que non, elle mentirait.
Mrs. Groves n'avait pas assez perdu la tête pour ne pas protester.
Oh, comment pouvez-vous ?
Parce que je suis franche, Flora ne désire pas que je sache.
Elle ne le fait que pour vous épargner.
Non, non, il y a là des abîmes, des abîmes.
Plus j'y réfléchis, plus j'y vois de choses. Et plus j'y vois de choses, plus elles me font frémir.
Je ne puis dire ce que je n'y vois pas, ce que je ne redoute pas.
Mrs. Groves tenta de me suivre.
Vous voulez dire que vous craignez de la revoir ?
Oh non, cela maintenant à mes yeux n'est rien.
Et j'expliquai.
Non, ce n'est pas l'idée de la revoir qui me fait peur.
Mais ma compagne demeurait toujours pâle.
Je ne vous comprends pas.
Ce que je crains, c'est que la petite soit capable de garder cela pour elle.
Sûrement c'est ce qu'elle fera, sans que j'en sache rien.
Devant une telle hypothèse, Mrs. Groves, un instant, parut vaincue. Mais bientôt, elle se ressaisit, comme poussée par la force positive de l'idée que, si nous reculions d'un pas, où ne serions-nous pas entraînés ?
Voyons, voyons, il ne faut pas perdre la tête.
Après tout, si cela lui est égal, elle essaya même une plaisanterie sinistre.
Peut-être cela lui plaît-il ?
De telles choses lui plaire, à ce bout d'enfant ?
N'est-ce pas justement une preuve de son innocence bénie ? Demanda bravement mon ami.
Un instant, elle me gagna à son avis.
Oui, il faut admettre cela, nous y cramponner. Si ce n'est pas la preuve de ce que vous dites, c'est la preuve de Dieu sait quoi. Car cette femme est la pire des horreurs.
Mrs. Groves tint une minute ses yeux fixés à terre. Puis, les relevant enfin,
« Comment le savez-vous ? » me dit-elle. « Vous admettez donc qu'elle l'est ? » m'écriai-je.
« Dites-moi comment vous le savez ? » répéta-t-elle simplement.
« Comment je l'ai su ? »
« En la voyant, à sa façon d'être. »«
À sa façon de vous regarder, voulez-vous dire, si vicieusement ?»«
Ma foi, non. Cela, j'aurais pu le supporter. Elle ne m'a pas jeté un coup d'œil. Elle fixait seulement la petite. »
Mrs. Groves essaya de se représenter la scène.
Elle la fixait ?
Avec quels yeux effrayants !
Elle me dévisagea comme si les miens eussent pu leur ressembler.
Ses yeux exprimaient l'aversion, voulez-vous dire ?
Plût à Dieu, non, bien pire !
Pire que l'aversion ?
Elle n'y comprenait plus rien.
Avec des yeux d'une détermination incroyable, indescriptible, qui exprimaient une sorte d'intention furieuse.
Cela la fit pâlir.
Comme une intention ? Une intention de s'emparer d'elle.
Les yeux de Mrs. Groves rencontrèrent les miens un instant. Elle frissonna et marcha vers la fenêtre. Et tandis qu'elle s'y tenait, regardant au dehors, je terminai mon récit.
Voilà ce que c'est Flora.
Peu après, elle se retourna.
Cette personne était en noir, m'avez-vous dit ?
Elle était en deuil. Un deuil assez pauvre, presque râpé. Mais oui, vraiment, une beauté extraordinaire. Je comprenais maintenant où, pas à pas, j'avais amené la victime de ma confidence. Car, visiblement, ces derniers mots la frappèrent particulièrement. Oui, vraiment belle, insistai-je, étonnamment belle, mais infâme. Elle s'approcha lentement de moi. Miss Jessel était infâme. De nouveau, elle prit ma main entre les siennes, la tenant serrée comme pour me fortifier contre l'accroissement de frayeur qu'une telle révélation pouvait me causer. Ils étaient infâmes tous deux, dit-elle finalement. Et une fois de plus, nous regardâmes la vérité en face un peu de temps. Et ce me fut vraiment un secours de voir maintenant les choses sous leur véritable jour. J'apprécie à sa valeur, lui dis-je, l'extrême pudeur qui jusqu'ici vous a empêché de parler. Mais l'heure est certainement venue de me révéler tout. Elle sembla acquiescer à mes paroles, mais néanmoins toujours en silence. Ce que voyant, je continuai, « Il faut me le dire maintenant. De quoi est-elle morte? Allons, il y avait quelque chose entre eux. » Il y avait tout. En dépit de la différence? De leur classe, oui, de leur condition. Elle en faisait douloureusement l'aveu. Elle était, elle, une dame. Je rêvais là-dessus et je compris. Oui, repris-je, elle était une dame. Et lui, tellement au-dessous d'elle, dit Mrs. Gross. Je sentis qu'il était inutile, en pareille compagnie, d'insister sur la place qu'occupe un domestique dans l'échelle sociale. Mais rien ne m'empêchait d'accepter le taux auquel ma compagne évaluait la déchéance de Miss Jessel. Il y avait la manière, et je l'eus, d'autant plus aisément que j'avais nettement devant les yeux la vision, trop réelle, du valet particulier qui avait été au service de notre patron. Intelligent, oui, et beau garçon, mais aussi impudent, plein d'assurance, gâté, dépravé. Cet individu était une brute. Mrs. Gross réfléchit comme si c'était un peu une affaire de nuance. Je n'ai jamais vu personne comme lui. Il faisait ce qu'il voulait. D'elle? De tous. C'était maintenant comme si Miss Jessel eût apparu aux yeux même de mon ami. À moi aussi, pour un instant, elle parut aussi distincte que lorsque je l'avais vue auprès de l'étang. Et je déclarai avec une grande décision, c'était sans doute qu'elle le désirait aussi. Le visage de Mrs. Gross signifia qu'elle l'avait désiré, sans doute, mais elle ajouta, « Pauvre femme, elle l'a bien payé. » « Alors, vous savez de quoi elle est morte ? » demandai-je. « Non, je ne sais rien. Je désirais ne rien savoir. J'étais bien contente de n'avoir rien su, et je remercie le ciel qu'elle fût hors d'ici. Cependant, vous aviez alors votre idée. Quant à la vraie cause de son départ ? Pour cela, oui, elle ne pouvait pas rester. Pensez donc, une institutrice, ici même. Plus tard, je m'imaginais, je m'imagine encore, et ce que j'imagine est affreux. Pas si affreux que ce que je m'imagine, moi, répliquai-je. Et sans doute, je lui laissai voir, car ma conviction n'était que trop profonde, une physionomie empreinte du sentiment de la plus amère défaite. Alors, encore cette fois, elle me témoigna la plus touchante compassion, et à cette nouvelle démonstration de bonté, toute ma force de résistance m'abandonna. Je fondis en larmes, tout de même que je l'avais fait fondre, elle, l'autre fois. Elle me serra sur son sein maternel, et mes plaintes débordèrent. « Je n'y arrive pas !» sanglotai-je, désespérément. « Je ne les sauve pas, je ne les protège pas. C'est pire que tout ce que j'avais pu rêver. Ils sont perdus. » Chapitre 9. C'était vrai, en somme, ce que j'avais dit à Mrs. Gross. Il y avait dans cette affaire des abîmes, des possibilités que je n'avais pas le courage de sonder. De sorte que, lorsqu'une fois de plus, après que nous nous fûmes réunis dans ce sentiment de stupeur que nous inspirait toute l'aventure, nous reconnûmes d'un commun accord qu'il était de notre devoir de résister aux fantaisies extravagantes d'imagination. Il fallait au moins garder son sang-froid, si tout le reste nous échappait, bien que cela fût difficile devant ce qui, dans cette prodigieuse aventure, semblait le moins discutable. Tard dans la soirée, alors que toute la maison était plongée dans le sommeil, nous causâmes de nouveau dans ma chambre, et elle alla jusqu'à reconnaître, sans doute aucun, que j'avais vu, réellement vu, ce que j'avais vu. Pour l'en convaincre formellement, je n'avais qu'à lui demander comment, si j'avais inventé l'histoire, il m'avait été possible de faire de chacune des personnes qui m'étaient apparues un portrait révélant dans les moindres détails les signes particuliers, portraits à l'exhibition desquels elle les avait instantanément reconnus et nommés. Elle désirait, naturellement, on ne pouvait le lui reprocher, étouffer toute l'histoire, et je me hâtais de l'assurer que l'intérêt que j'y portais moi-même avait pris maintenant la forme de la recherche ardente d'un moyen pour y échapper. Je me rangeais cordialement à son opinion que, vraisemblablement, les visions se répétant, et nous étions certaines qu'elles se répéteraient, je m'habituerais au danger, déclarant ouvertement que mon risque était subitement devenu le moindre de mes soucis. C'était mon dernier soupçon qui était intolérable. Et cependant, à cette complication même, les dernières heures de la journée avaient apporté un soulagement. En la quittant, après mon premier accès de désespoir, j'étais naturellement retourné auprès de mes élèves, associant le remède propre à guérir mon bouleversement à cette impression de charme qu'il dégageait, impression que j'avais déjà reconnue être une ressource sur laquelle je pouvais compter et qui ne m'avait encore jamais failli. En d'autres termes, je m'étais simplement replongé dans la société particulière de Flora, et alors je m'aperçus, ce fut presque une ivresse, que sa petite main consciente savait se poser sur le point douloureux. Elle m'avait regardé avec une tendre curiosité, puis m'avait accusé, les yeux dans les yeux, d'avoir pleuré. Je supposais que les vilaines traces de larmes étaient effacées, mais dans l'effusion de cette charité infinie, je me réjouis littéralement qu'elles n'eussent pas entièrement disparu. Contempler le bleu profond des yeux de l'enfant et déclarer leur beauté un piège de précoce habileté aurait été se rendre coupable d'un cynisme auquel, naturellement, je préférais sacrifier mon jugement et, autant que faire se pouvait, mon inquiétude. On ne peut sacrifier son jugement simplement parce qu'on le désire. Mais l'on pouvait dire, ainsi que je me le répétais maintes et maintes fois jusqu'à l'aube, qu'avec les voix de nos jeunes amis résonnant dans l'air, leurs petits corps serrés sur le cœur et leurs visages embaumés contre la joue, tout dans l'univers s'évanouissait, tout excepté leur enfance et leur beauté. C'était dommage, je le dis une fois pour toutes, que tout de même, il me fallut faire entrer en ligne de compte les gestes subtils qui, l'après-midi, près du lac, avait rendu miraculeuse ma maîtrise de moi-même. C'était dommage d'être contrainte d'analyser de nouveau la réalité de ce moment-là, et de répéter que je m'étais senti envahi par la révélation que cette inconcevable communion, surprise par moi, devait être pour toutes deux chose d'habitude. C'était dommage que j'eusse à balbutier de nouveau les raisons qui ne m'avaient pas laissé hésiter un instant à croire que la petite fille voyait notre visiteuse aussi bien que je voyais actuellement Mrs. Krause elle-même, et qu'elle désirait, pour autant qu'elle avait cette vision, me faire croire qu'elle ne l'avait pas, et en même temps, sans rien démasquer d'elle-même, arriver à deviner si, moi, j'avais vu quelque chose. C'était dommage qu'il me fallût récapituler les inquiétantes petites manœuvres avec lesquelles elle avait cherché à divertir mon attention. Le très perceptible accroissement de son activité, la plus grande intensité de son jeu, sa chanson, son babillage puéril et son invitation à gambader. C'était dommage, et cependant, si je ne m'étais pas laissé aller à cet examen, dans le but de me prouver qu'il n'y avait rien, j'aurais laissé échapper les deux ou trois vagues motifs de réconfort qui me restaient. Par exemple, je n'aurais pas pu réitérer à mon ami l'assurance que j'étais certaine au moins de ne pas m'être trahi, ce qui était autant de gagné. Je n'aurais pas, sous l'empire de ma détresse d'esprit, de mon besoin désespéré de savoir, je ne sais vraiment comment m'exprimer, je n'aurais pas de nouveau imploré un éclaircissement qui ne se pouvait obtenir en mettant ma compagne au pied du mur. Petit à petit, pressée par moi, elle m'en avait déjà beaucoup dit. Mais il restait un mauvais petit coin noir, dont l'ombre venait encore par moments me frôler comme une aile de chauve-souris. Et je me rappelle comment, saisissant l'occasion, La maison était endormie et la conjonction de notre risque et de notre veille semblait me venir en aide. J'ai senti toute l'importance qu'il y avait maintenant à soulever le dernier pli du rideau. « Je ne crois à rien de si épouvantable, » dis-je. Je m'en souviens. « Non, non, ma chère, que ce soit clairement établi entre nous, je ne le crois pas. Mais si je le croyais, vous savez, il y a quelque chose que j'exigerais de vous, maintenant, et sans vous épargner le moins du monde. Mais non, absolument pas. Pourquoi donc ? À quoi pensiez-vous quand, pleine d'émotion à la lecture de la lettre, avant que Miles fût revenu du collège, vous me répondîtes, cédant à mon insistance, que vous ne pourriez pas jurer qu'il ne s'était jamais mal conduit. Il ne s'est jamais mal conduit pendant ces dernières semaines que j'ai passées avec lui, en le surveillant de si près. Il n'a été qu'un imperturbable petit prodige de ravissante et adorable sagesse. Donc, vous auriez très bien pu me donner votre parole, si vous n'aviez pas, comme il apparaît, su qu'il y avait une exception. Qu'était-ce que cette exception? Et à quelles circonstances de votre expérience personnelle faisiez-vous allusion? C'était une question assez directe, mais nous n'étions pas en veine de légèreté. En tout cas, avant que nous ne reçussions de l'aube grise l'avis d'avoir à nous séparer, j'avais ma réponse. Ce qu'avait pensé ma compagne cadrait étrangement avec le reste de l'aventure. C'était, ni plus ni moins, le fait que pendant une période de plusieurs mois, Quint et le petit avaient été perpétuellement ensemble. Un incident avait eu lieu, qui était le témoignage le plus approprié qu'on pût concevoir. Elle s'était risquée à critiquer la convenance, à signaler l'incongruité d'une intimité pareille, et, à ce sujet, elle avait été aussi loin qu'une déclaration explicite à Miss Jessel le lui avait permis. Miss Jessel l'avait pris de très haut, en la priant de se mêler de ses affaires, et la brave femme, là-dessus, avait entrepris directement le petit Miles. Ce qu'elle lui dit, je finis par le lui arracher, fut qu'elle aimait bien voir les jeunes messieurs ne pas oublier leur rang. Après cela, je tins encore davantage à lui arracher la suite. Vous lui avez rappelé que Quint n'était qu'un vulgaire mercenaire, si vous voulez, et sa réponse en premier lieu ne fut pas belle. Et en second lieu, j'attendis. Il répéta à Quint vos paroles? Non, pas ça. C'est justement ce qu'il n'aurait fait pour rien au monde. Elle tenait à me le faire remarquer. En tout cas, reprit-elle, je suis certaine qu'il ne les répéta pas. Mais il nia certaines circonstances. Quelles circonstances? Celles où il se comportait comme si Quint était son précepteur, et un précepteur de haute volée, et comme si Miss Jessel n'était chargée que de la petite demoiselle. Je veux dire, quand il s'en allait avec cet individu et passait des heures entières avec lui. Il a éludé votre question? Il a dit qu'il ne l'avait pas fait? Son acquiescement fut assez clair pour me permettre d'ajouter, un moment après, « Je vois, il a menti. »« Ouf !» murmura Mrs. Crowe. Ce murmure suggérait que la chose importait peu, et elle le fortifia de la remarque suivante. « Voyez-vous, après tout, c'était indifférent à Miss Jessel. Elle ne lui défendait pas. » Je réfléchis. « Vous présenta-t-il cela comme une justification ?» Elle lâcha pied encore une fois. « Non, il ne m'en a jamais parlé. »« Il ne vous a jamais parlé d'elle par rapport à Quint ?» Elle rougissait visiblement, voyant où je voulais en venir. Enfin, jamais il ne me montra qu'il savait quelque chose à ce sujet. « Il nia, » répéta-t-elle, « il nia. » Seigneur, comme je la pressais maintenant. Ainsi, vous vous rendiez compte qu'il savait ce qui se passait entre ces deux misérables. « je ne sais pas, gémit la pauvre femme. « Si, vous savez, ma pauvre amie, répliquai-je, seulement vous n'avez pas ma terrible audace d'imagination, et vous cachez, par timidité, par pudeur et par délicatesse, jusqu'à cette impression qui, dans le passé, quand toute seule vous soupçonniez et tâtonniez en silence, vous rendait plus malheureuse que tout le reste. Mais je finirai bien par vous l'arracher. » Il avait donc quelque chose, le petit, continuai-je, qui vous faisait croire qu'il couvrait et dissimulait leur relation, Oh, il ne pouvait pas empêcher. Que vous n'appreniez la vérité?
Je le pense bien.
Mais, grand Dieu, et ma pensée m'emportait. Comme cela montre ce qu'ils avaient pu arriver à faire de lui.
Ah, rien qui ne soit redevenu bien aujourd'hui,
plaida lugubrement Mrs. Gross.
Je ne m'étonne plus de votre air étrange, continuai-je, lorsque je vous parlais de la lettre envoyée par le collège.
Je me demande si j'avais l'air aussi étrange que vous, rétorqua-t-elle avec une énergie familière.
Et s'il était alors aussi mauvais que vous voulez bien le dire, comment se fait-il qu'il soit maintenant un ange?
C'est vrai. S'il était un misérable à l'école, comment cela se peut-il?
Eh bien, lui dis-je éperdu, il faudra me le redemander, bien qu'il faille laisser passer quelque temps avant que je puisse répondre.
Mais redemandez-le-moi, criai-je, de telle façon qu'elle me regarda stupéfaite. Il y a des directions où je ne veux pas m'engager pour le moment.
Et je revins au premier exemple cité par elle, celui auquel elle venait de faire allusion, la possibilité rassurante chez notre garçon de commettre une faute à l'occasion. Si Quint, je pense à la remontrance que vous fîtes au moment dont vous parliez, si Quint était un vulgaire mercenaire, je devine que l'une des choses que Miles vous répondit fut que vous en étiez une autre.
Là encore, son acquiescement fut tel que je continuai.
Vous lui avez pardonné cela?
Ne l'auriez-vous pas fait?
Vous aussi. Et dans la paix nocturne, quelque étrange que pût paraître une telle hilarité, nous ne pûmes nous empêcher de rire.
Puis je continuai. En tout cas, pendant qu'il était avec l'homme,
Miss Flora était avec la femme.
Et ça leur convenait à tous.
Et à moi aussi, cela n'allait que trop bien. J'entends que cela me semblait aller trop bien avec le soupçon mortel que je travaillais justement à étouffer. Mais je réussis à brider l'expression de ma pensée si bien que, pour l'instant, je ne donnerai point d'autre éclaircissement que ma dernière phrase, Mrs. Gross. Je vous avoue que ce que vous me dites de son mensonge et de son insolence me semble des symptômes moins encourageants que je n'espérais de la révélation en lui de la nature humaine.
Tout de même, fis-je, rêveuse, j'en tiendrai compte, car, plus que jamais, je sens qu'il faut veiller.
L'instant d'après, je me surpris à rougir en voyant à l'expression du visage de mon amie combien elle lui avait plus complètement pardonné que son anecdote ne portait ma propre tendresse à le faire. Elle marqua plus particulièrement ce sentiment quand, à la porte de la salle d'études, elle me quitta.
Sûrement, vous ne l'accusez pas.
D'entretenir un commerce qu'il me dissimule?
Ah, rappelez-vous que jusqu'à nouvel ordre, je n'accuse personne.
Et avant de refermer la porte, elle se préparait à rejoindre son propre domicile.
Je n'ai qu'à attendre, prononçai-je, en manière de conclusion.
Chapitre 10. Et j'attendis. J'attendis, et les jours en passant, emportaient un peu de ma consternation. De fait, un très petit nombre de ces jours, pendant lesquels je ne quittais pas mes élèves de vue, et qui furent d'ailleurs dépourvus d'incidents, suffirent pour passer sur les rêveries amères, et même sur les odieux souvenirs, comme un coup d'éponge. J'ai parlé de la fascination de leur extraordinaire grâce enfantine, comme d'un sentiment auquel je me sentais intimement sollicité de m'abandonner. Et l'on peut croire, si je négligeais d'aller quérir à cette source le baume désiré, mon effort pour lutter contre la lumière qui se faisait dans mon cerveau était plus étrange que je ne puis dire. Cependant, la tension eût été plus grande encore si le succès ne l'eût pas si fréquemment récompensé. Je me demandais souvent comment mes petits élèves ne devinaient pas que je pensais d'eux de singulières choses. Le fait que ces singulières choses les rendaient plus intéressants encore ne m'aidait pas à les conserver dans l'ignorance. Je tremblais qu'ils ne s'aperçussent combien plus immensément intéressants ils étaient devenus. En tout cas, même en mettant les choses au pire, ainsi que je n'y étais que trop encline, toute ombre jetée sur leur innocence, pauvres petites créatures prédestinées, ne constituait qu'une nouvelle raison d'aller au-devant des responsabilités. Il y avait des moments où, poussé par une impulsion irrésistible, je ne pouvais m'empêcher de les saisir et de les serrer dans mes bras. Et aussitôt je songeais, que vont-ils penser? Ne me suis-je pas trahi? Discuter jusqu'à quel point je pouvais me livrer, ne m'entraînerait-il pas en de tristes et folles complications?
La vraie raison, je le sentais, des heures de paix que je goûtais encore, était que le charme personnel de mes petits camarades exerçait son ensorcellement, même s'il était effleuré du soupçon d'hypocrisie. Car s'il ne m'échappait pas que les brèves explosions de ma tendresse pouvaient à l'occasion exciter leurs soupçons, je me souviens aussi de m'être demandé s'il n'y avait pas quelque chose de singulier dans le développement indéniable de leur propre démonstration. Ils furent pour moi pendant cette période d'une tendresse extravagante et anormale. Ce n'était, après tout, me disais-je, que la gracieuse réplique d'enfants habitués tant à l'adoration qu'à l'admiration. Cet hommage, dont ils étaient si prodigues, eut le même excellent effet sur ma nervosité que si jamais je ne les eusse, si j'ose dire, pris la main dans le sac. Jamais, je crois, ils ne m'avaient témoigné un tel désir de faire quelque chose pour leur pauvre protectrice. Je veux dire, bien qu'ils eussent de plus en plus de zèle pour leur leçon, ce qui naturellement lui était le plus sensible des plaisirs, je veux dire leur ardeur à la distraire, à l'amuser, à lui préparer des surprises. On lui faisait la lecture de certains passages, on lui racontait des histoires, on lui jouait des charades, on sautait sur elle sous divers déguisements, animaux ou personnages historiques, et par-dessus tout, la surprenant par les morceaux secrètement appris par cœur qu'il pouvait réciter interminablement. Je n'arriverai jamais, même si je me laissais emporter par le flot de mes souvenirs, à reproduire le prodigieux commentaire secret dont j'accompagnais à les faire déborder les heures déjà si pleines de notre vie commune. Dès le début, ils avaient montré une facilité, une disposition à tout apprendre, qui, sous une impulsion nouvelle, produisait des fruits remarquables. Ils accomplissaient avec amour leurs tâches enfantines, ils s'amusaient, pour le plaisir d'exercer leurs dons, à de menus miracles de mémoire que je ne leur aurais jamais imposés. Ce n'étaient pas seulement des tigres ou des romains qui surgissaient devant moi, mais des personnages de Shakespeare, des astronomes, des navigateurs. Le cas était tellement particulier qu'il contribua, pour beaucoup sans doute, à me mettre dans un état d'esprit que j'ai peine aujourd'hui à m'expliquer autrement. Je fais ici allusion à la quiétude anormale dans laquelle je laissais dormir la question d'une nouvelle école pour Miles. Tout ce que je me rappelle, en effet, à ce sujet, c'est que je me contentais, pour le moment, de laisser cette question de côté, et que ce consentement devait naître de l'impression produite en moi par ces preuves perpétuelles et frappantes d'intelligence. Il était trop doué, trop intelligent, pour qu'une pauvre petite institutrice, une modeste fille de pasteur, pût lui nuire. Et le plus étrange, sinon le plus brillant des fils de la tapisserie mentale dont je viens de parler, était la sensation qui, si j'avais osé l'analyser, se serait ainsi nettement formulée. Il était soumis à une influence qui agissait comme un ferment prodigieux dans sa jeune vie spirituelle. S'il était aisé d'admettre cependant qu'un garçon comme celui-là pût retarder sans inconvénient son entrée dans un collège, il était au moins aussi évident que le fait de flanquer à la porte un garçon comme celui-là constituait un mystère inexplicable. J'ajoute que dans leur société, et j'avais soin maintenant de ne presque jamais les quitter, je ne pouvais suivre longtemps aucune piste. Nous vivions dans un tourbillon de musique, de tendresse, de réussite et de représentation théâtrale. Les dispositions musicales des deux enfants étaient des plus remarquables, mais l'aîné avait tout particulièrement le don merveilleux de se rappeler et de répéter ce qu'il avait entendu. Le piano de la salle d'études résonnait de mille fantastiques improvisations, et, à défaut de musique, c'était des conciliabules dans les coins, puis l'un d'eux, au comble de l'animation, disparaissait pour revenir sous un aspect nouveau. J'avais eu moi-même des frères, et ce n'était pas une révélation pour moi que l'esclavage idolâtre des petites filles envers les petits garçons. Ce qui était plus surprenant, c'était qu'il y eut au monde un garçon qui éprouva tant de considération pour un âge, un sexe et une intelligence inférieure. Ils étaient extraordinairement unis, et dire qu'ils ne se plaignaient jamais l'un de l'autre, ni ne se disputaient, n'est que donner une louange bien grossière à leur exquise intimité. Quelquefois, peut-être, quand je me laissais aller à une défiance vulgaire, je découvrais chez eux des traces de petits complots grâce auxquels l'un me tenait occupé pendant que l'autre s'échappait. Dans toute diplomatie, il y a, je suppose, un côté naïf. Et si mes élèves se jouaient de moi, c'était sûrement avec le minimum de vilenie. Mais alors, ce fut dans l'autre région que la vilenie se manifesta. Je vois bien que je m'attarde, mais enfin il me faut faire mon horrible plongeon. En poursuivant le récit de ce que je vis de hideux à Bligh, non seulement je mets à l'épreuve les plus généreuses confiances, de cela je me soucie peu, mais, et ceci est autre chose, je renouvelle mon ancienne souffrance. De nouveau, je suis jusqu'au bout de la terrible route. Il vint soudainement une heure après laquelle, quand je regarde en arrière, tout me paraît n'avoir plus été que douleur. Mais me voici enfin au cœur du drame. Et pour achever ma tâche, le mieux est sans doute de marcher franchement. Un soir, rien ne vint m'avertir, rien ne me conduisit là. Un soir, de nouveau, je sentis passer sur moi ce souffle glacé du premier soir de mon arrivée. La sensation, la première fois, avait été beaucoup plus légère, et elle ne m'aurait sans doute laissé aucun souvenir. Mon séjour postérieur n'eût-il pas été si troublé. Je ne m'étais pas couché. Je lisais, assise à la lueur de deux bougies. Il y avait à Bligh une chambre entière remplie de vieux livres, parmi lesquels se trouvaient quelques romans du XVIIIe siècle. Assez célèbres pour que leur mauvaise réputation ne pût plus être mise en doute, ils ne l'étaient pas assez cependant pour avoir pénétré, fût-ce sous la forme d'un exemplaire dépareillé, jusqu'à mon foyer écarté. Ils avaient excité en moi une curiosité inavouée et juvénile. Je me souviens que le livre que je tenais était l'Amélia de Fielding et que j'étais tout à fait éveillé. Je me souviens aussi d'avoir eu une vague idée qu'il était horriblement tard et que je ne voulais pas interroger ma montre. Et puis je me représente encore les rideaux enveloppant, à la mode de ce temps-là, la tête du petit lit de Flora et protégeant, ainsi que je m'en étais déjà assuré, la parfaite tranquillité de son sommeil enfantin. En un mot, je me rappelle qu'en dépit du vif intérêt que je prenais à ma lecture, je me trouvais, comme je venais de tourner une page, avoir perdu subitement le fil de l'histoire, et fixant la porte de ma chambre, les yeux levés de dessus mon livre. Un instant, je demeurai aux écoutes. Cette vague sensation, éprouvée la première nuit, que quelque chose d'indéfinissable remuait dans la maison, me revenait à l'esprit. À travers la fenêtre ouverte, une brise légère agitait doucement le store à demi baissé. Alors, avec toutes les marques d'un sang-froid qui eût été magnifique à constater, si quelqu'un se fût trouvé là pour l'admirer, je posai mon livre, me levai, et prenant un bougeoir, je sortis tout droit de la chambre. Lorsque je fus dans le corridor, dont ma lumière dissipait à peine les ténèbres, je tirai silencieusement la porte à moi, et la fermait à clé. Je ne puis actuellement dire à quel mobile j'obéissais, ni quel but je poursuivais. Mais je m'avançais tout droit le long du corridor, tenant mon bougeoir élevé, jusqu'à ce que j'arrivasse en vue de la haute fenêtre qui dominait le vaste tournant de l'escalier. Alors, tout d'un coup, je me rendis compte de trois choses. Pratiquement parlant, ma perception en fut simultanée. Cependant, ces éclairs se succédèrent. À la suite d'un brusque mouvement, ma bougie s'était éteinte, et par la fenêtre dépourvue de rideaux, je m'aperçus que la nuit finissait et que le jour naissant la rendait inutile. Sans elle, un moment après, je savais qu'il y avait une forme humaine dans l'escalier. Je parle de succession d'idées, mais il ne me fallut pas un grand nombre de secondes pour me remettre en état d'affronter une troisième rencontre avec Quint. L'apparition avait atteint le palier du milieu de l'étage, elle était par conséquent à l'endroit le plus proche de la fenêtre, quand, à ma vue, elle s'arrêta net. C'était bien Quint. Il me dévisagea, exactement comme il m'avait dévisagé du haut de la tour et à travers les vitres du rez-de-chaussée. Il me reconnut, de même que je l'avais reconnu. et ainsi nous demeurâmes en face l'un de l'autre, dans l'aube froide et grise, une lueur tombant de la haute fenêtre, et une autre qui venait du parquet de chêne luisant, nous fixant l'un l'autre avec la même intensité. À ce moment, il était, au sens le plus absolu, une vivante, une détestable, une dangereuse présence. Mais ce n'était pas là la merveille des merveilles. Ce rang éminent, je le réserve à une toute autre constatation, que la peur, indiscutablement, m'avait quitté, et qu'aucune puissance en moi ne se refusait à le rencontrer et à l'affronter. Après ce moment extraordinaire, j'eus certes bien des angoisses, mais, Dieu merci, jamais plus de terreur. Et il savait que je n'en avais point. Au bout d'un instant, j'en possédais la magnifique certitude. Je sentis avec une conscience ardente et indestructible que si je pouvais tenir une minute, je cesserais, au moins pour un temps, d'avoir rien à craindre de lui. Et de fait, pendant cette minute, cela fut aussi vivant, aussi atroce qu'une rencontre réelle. Atroce justement parce que c'était naturel. Aussi naturel qu'eût pu l'être, à 16 heures matinales, dans une maison endormie, la rencontre d'un ennemi, d'un aventurier, d'un criminel. Seul le mortel silence de ce long regard, si proche que nous fixions l'un sur l'autre, donnait à toute cette horreur, si monstrueuse qu'elle fût, son unique touche de surnaturel. Eussé-je rencontré un assassin à cette heure, en ce lieu, au moins nous nous serions parlé. Quelque chose de vivant se serait passé entre nous. Si rien ne s'était passé, l'un au moins aurait bougé. Ce moment se prolongea tellement qu'il s'en fallait de peu que je ne me misse à douter d'être moi-même en vie. Je ne puis exprimer ce qui s'ensuivit qu'en disant que le silence même, ce qui en un certain sens témoigne de mon énergie, le silence devint l'élément au sein duquel je vis sa forme disparaître. Je la vis se détourner, comme j'aurais pu voir faire au misérable à qui elle avait appartenu, reçu d'un ordre. Je la vis, mes yeux attachés sur le dos ignoble qu'aucune gibbosité n'aurait pu défigurer davantage, je la vis passer tout le long de l'escalier et gagner l'ombre dans laquelle le tournant se perdait.